VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, il est 5h30 en temps universel. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington. Merci pour votre fidélité au micro, Nanit Talani. Voici les principaux titres du journal de ce jeudi 21 août. Les belligérants soudanais se retrouvent à Jeddah pour des négociations cruciales. Au Nigeria, arrestation du chef du principal syndicat après une manifestation violente. En RDC, une ONG signale plus de 500 atteintes à la presse en 5 ans, dont 5 journalistes tués. En Ouganda, Human Rights Watch dénonce la répression contre les opposants au mégaprojet Total Energy. L'aide à Israël et à l'Ukraine en débat au Congrès américain. Dans la partie magazine, nous ferons le cap au Burkina Faso qui vient de célébrer le festival Poulakou, un outil de lutte contre l'extrémisme violent. Et puis le départ de la MINUSMA de Kidal, un coup dur pour la stabilité au Mali. Et puis d'environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec l'économie et le sport. En attendant, le journal. Les négociations entre l'armée et les paramilitaires au Soudan vont reprendre ce jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite, sous médiation américaine et saoudienne. Les pourparlers porteront sur un cessez-le-feu, l'accès à l'aide humanitaire et d'autres mesures de confiance. L'objectif est de parvenir à une cessation complète des hostilités qui ont débuté en avril et ont fait plus de 9000 morts et 5,6 millions de personnes déplacées. Les autorités ougandaises sont responsables de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de passages à tabac contre des opposants au méga-projet pétrolier mené par Total Energy dans ce pays, accuse l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié ce jeudi appelant à mettre fin aux arrestations arbitraires. Ce méga-projet du groupe français comprend entre autres le forage de 419 puits dans l'ouest de l'Ouganda, dont un tiers dans le parc naturel de Murchison Falls. Défendu par le président Yoweri Museveni, ce programme rencontre l'opposition de défenseurs de l'environnement qui estiment qu'il menace le fragile écosystème et les populations de la région. Les autorités ougandaises n'ont pas répondu aux sollicitations de Human Rights Watch. Au Nigeria, Joe Ajaero, dirigeant du NLC, le Nigerian Labour Congress, le plus important syndicat du pays, a été arrêté hier, mercredi, par la police, qu'il a d'abord regardé se faire tabasser par des nervis. C'est ce qu'ont déclaré son organisation et le deuxième syndicat du pays, mais la police a ensuite nié avoir arrêté le dirigeant de ce syndicat, affirmant qu'elle avait placé en détention préventive pour le protéger d'une attaque de la foule. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
L'interpellation du chef du NLC a eu lieu après une manifestation en faveur des droits des travailleurs dans l'état d'Imo, sur laquelle la police a chargé, selon les syndicats. Dans un communiqué commun, le NLC et le deuxième syndicat du pays, le Trade Union Congress, ont affirmé que des nervis descendus de camionnettes avaient attaqué et blessé des syndiqués et cassé des pare-brises de voitures. Quand M. Ajaero est arrivé un peu plus tard, ils lui ont infligé de grosses blessures sous les yeux des policiers, selon les syndicats. Une manifestation sur le non-paiement des salaires et de pensions de retraite depuis 44 mois et la violation d'autres droits du travail était prévue. Début octobre, le NLC et le TUC avaient accepté de suspendre leur appel à la grève nationale après l'annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie. Les Nigérians sont confrontés au triplement des prix des carburants et à l'augmentation du coût des denrées alimentaires depuis que le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et a laissé flotter la monnaie.
En République démocratique du Congo, l'organisation Journalistes en danger a indiqué hier à Kinshasa avoir répertorié plus de 500 atteintes contre les médias, dont 5 journalistes tués durant le mandat du président Félix Tshisekedi, dont elle fustige les promesses non tenues en matière de presse. Le point avec Lionel Gaïma.
en 5 ans, Journaliste en danger dit avoir enregistré au moins 523 attaques diverses contre la presse, dont au moins 160 arrestations, plus de 130 cas de menaces ou violences physiques, 123 cas de médias attaqués, fermés ou d'émissions interdites. 5 journalistes ont été tués dans les provinces de l'Est, selon Chivis Chivuadi, secrétaire général de GED, et au moins 3 journalistes sont toujours en prison, dont Stanis Boujakera, détenu depuis le 8 septembre. Félix Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, s'était engagé à faire des médias un 4e pouvoir. Son quinquennat était considéré comme celui de tous les espoirs après le règne de Joseph Kabila, marqué par des brimades, attaques, arrestations et des violences allant parfois jusqu'aux assassinats des journalistes, note GED. L'organisation fustige les promesses non tenues de M. Tshisekedi et constate qu'aucune action d'envergure n'a été prise pour rendre plus sûr l'exercice du métier de journaliste en dépit de l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont-ils se cantonner à un soutien financier d'Israël ? Ou bien vont-ils adopter l'enveloppe faramineuse voulue par le président Biden avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie? Le Congrès américain commence ce jeudi à plancher sur cette question épineuse. L'institution est scindée en deux sur le type de soutien apporté à ses alliés à l'étranger. Démocrates comme républicains veulent adopter sans tarder une aide militaire pour Israël, partenaire de longue date des États-Unis et en guerre avec le Hamas. Les choses se compliquent toutefois quand il s'agit de l'Ukraine. Il y a d'un côté la Chambre des représentants dominée par les conservateurs et où une poignée d'élus de droite appelle à cesser immédiatement l'aide à Kiev. Il y a de l'autre côté le Sénat à majorité démocrate et où l'opposition républicaine est majoritairement favorable à l'aide à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va retourner demain en Jordanie dans le cadre d'une nouvelle tournée de crise au Proche-Orient. L'annonce a été faite par le département d'État, Le Point avec Yacouba Ouedraogo.
Anthony Blinken doit d'abord se rendre en Israël vendredi, où il aura des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon son porte-parole Matthew Miller, les deux vont faire le point sur la guerre et s'assurer d'un flux continu d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Anthony Blinken s'était déjà rendu en Jordanie lors d'une tournée marathon le mois dernier dans la région suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Le président Joe Biden et lui-même se sont entretenus avec le roi Abdallah II à de multiples reprises, y compris mardi soir. La Jordanie, partenaire des États-Unis et qui a signé en 1994 un traité de paix avec son voisin israélien, a annoncé mercredi avoir décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. Disant condamner la guerre israélienne, elle a évoqué une catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza pour justifier sa décision. Les États-Unis ont estimé que les mesures visant à réduire la présence diplomatique d'un pays ne sont pas productives à long terme.
Des centaines de blessés palestiniens et des étrangers ont été évacués hier mercredi de la bande de Gaza, bombardés sans répit par l'armée israélienne qui a frappé, comme mardi, le plus grand camp de réfugiés du territoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit atterré par les frappes sur ce camp très densément peuplé où vivent 116 000 réfugiés. Pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ces bombardements pourraient constituer des crimes de guerre compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis la victoire contre le Hamas, qui a le choix entre mourir ou se rendre sans condition, selon le ministre de la Défense Yoav Gallant. Le Japon a démarré ce jeudi la 3e phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima, alors que Pékin et Moscou ont restreint leurs importations japonaises en protestation contre ce processus devant durer plusieurs décennies. Le Japon avait commencé le 24 août à évacuer dans l'océan Pacifique l'eau utilisée notamment pour refroidir les cœurs des 3 réacteurs. de la centrale de Fukushima qui était entrée en fusion après le tsunami de 2011. Le rejet en mer a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais le lancement du processus a provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine, qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations du produit japonais de la mer, suivi depuis par la Russie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg.
Le Rwanda conclut un accord préliminaire avec le FMI sur un nouveau programme d'aide de 262 millions de dollars pour aider à atténuer les pressions sur sa balance des paiements résultant des chocs climatiques. Les sécheresses répétées, les graves inondations de mai 2023 et le resserrement des conditions de financement au niveau mondial aggravent les défis hérités de la pandémie de Covid-19, a souligné le FMI, ajoutant que la nouvelle facilité de crédit permettra au Rwanda de financer la reconstruction des infrastructures dans les régions touchées par les inondations. La Centrafrique a exporté plus de 100 000 carats de diamants pour plus de 11 millions de dollars en 2021 grâce à la levée de l'embargo international. Pour augmenter ses exportations, le gouvernement centrafricain a mis en place une série de mesures visant à améliorer la transparence et la traçabilité de la filière diamantaire, dont l'exigence d'un titre légal de patente pour l'exploitation d'une mine de diamants et la production de preuves d'achat. Ici aux États-Unis, la Banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés hier dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, mais reste très attentive au risque d'inflation. La Fed a par ailleurs souligné la vigueur du marché du travail et de l'activité économique.
À présent, place au sport et nous accueillons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour à tous.
La finale de l'African Football League va opposer le Wydad Casablanca au Mamelodi Sundowns.
Oui, dans la demi-finale retour disputée hier, les Marocains du Wydad ont perdu 1-0 dans le temps réglementaire, remettant les deux équipes à égalité après leur courte victoire à domicile 1-0 face à l'Espérance de Tunis. Le club Wydadi a fini par s'imposer au tir au but avec 5 tirs réussis contre 4. Le Wydad arrache ainsi son ticket pour la finale de cette nouvelle compétition d'élite de la CAF. En finale allée le 5 novembre, les Marocains feront face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui ont fait match nul 0 but partout devant les Égyptiens d'Al Ahly après leur victoire à l'aller 1-0. La finale retour aura lieu le 11 novembre. Le vainqueur de cette première édition de l'African Football League recevra une cagnotte de 4 millions de dollars et le finaliste 3 millions de dollars.
La CAF a dévoilé hier la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023.
La star nigériane Victor Osimhen, meilleur buteur de la Serie A la saison dernière et des éliminatoires de la prochaine CAN, fait partie des 30 candidats désignés pour le titre de joueur africain de l'année. Les stars de l'équipe du Maroc dominent la liste. Il s'agit du gardien Yassine Bounou, du défenseur Achraf Hakimi, du milieu de terrain Sofiane Amrabat, de l'ailier Hakim Ziyech et de l'attaquant Youssef El-Nesri. Le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, tous deux doubles lauréats du prix, ont également été nominés. On note aussi la présence de l'Ivoirien Seko Fofana d'Arnas, du Guinéen de Stuttgart Serou Girassi, du Malien de Tottenham Yves Bissouma, du Burkinabé du Bayern Leverkusen Edmond Tapsoba, entre autres. La ville de Marrakech a été choisie pour accueillir la cérémonie de remise des prix le 11 décembre.
Pour terminer, Yakuba, basketball, Joel Embiid sanctionné d'une amende.
Le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, meilleur joueur de la saison dernière, a été sanctionné d'une amende de 35 000 dollars pour geste obscène lors de la victoire de son équipe face à Portland dimanche. Après un lay-up réussi malgré la faute d'un adversaire, Joel Embiid a célébré son action à la façon de l'ancien groupe de catcheurs D-Generation X, bras croisés sur le bas-ventre, un geste jugé obscène par la NBA. Embiid avait déjà utilisé ce geste en match et expliqué il y a plusieurs années son admiration pour ses ex-stars du catch. Le Camerounais réussit un bon début de saison avec les Sixers, 2 victoires et 1 défaite avec 31 points par match en moyenne. Philadelphie accueille Toronto ce soir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, passons à notre section magazine. La mission des Nations Unies au Mali a définitivement quitté sa base de Kidal depuis le mardi 31 octobre dernier. Depuis lors, la base est occupée par les membres du cadre stratégique permanent au moment où les forces armées maliennes et les groupes armés se disputent pour le contrôle des emprises libérées par la MINUSMA. Depuis Kidal, Sidi Amar, un habitant, signale que la situation est tendue. Sidi Amar a été joint par téléphone par Modibo Dembélé.
Le départ de l'aménagement hier, on peut noter que la situation elle est un peu inquiétante. Maintenant, reste à savoir quelle est la suite qui sera donnée au départ de l'aménagement, vu que les troupes maliennes, l'armée malienne n'est pas loin de Kidal, ils sont à 600 et quelques kilomètres de Kidal. Donc la situation elle est telle que, il n'y a plus d'emploi pour les jeunes qui travaillent au niveau de l'aménagement et sur les plans également alimentaires, les choses commencent à devenir un peu difficiles. Donc en général, on peut dire que la situation elle est un peu difficile actuellement à Kidal.
Qui occupe actuellement les locaux des emprises de l'aménagement?
Les emprises de l'aménagement à Kidal, en tout cas pour les camps de l'aménagement, est occupée par le CSP, qui est la composante de la CMA qui occupe les camps de l'aménagement actuellement aujourd'hui, et à l'interne et à l'externe. Parce que le CSP a donné ordre aux civils de s'éloigner des camps, et parce que, comme vous le savez, les gens craignent notamment des raids aériens, des drones et des avions de chasse. À l'intérieur même des camps de l'aménagement, nous avons ce qu'on appelle des bunkers qui ont été déjà construits par l'aménagement, donc forcément les CSP va les utiliser pour souvent se barricader pour pouvoir mener peut-être une résistance.
Est-ce que des pourparlers sont en cours actuellement entre les CSP et puis les autorités maliennes?
On n'a pas entendu de pourparlers qui ont été engagés, parce que les seuls pourparlers qui étaient initiés par certaines des personnes de bon office au début même de l'offensive malienne vers Kidal ont été stoppés. Maintenant, il n'y a pas de pourparlers à ce qu'on sache jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Sidi Amar, un habitant de Kidal, joint par téléphone par Modibo Dembélé.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Après 5 ans d'interruption en raison de l'insécurité, la 5e édition du festival Poulaku s'est tenue le week-end dernier à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le festival du vivre ensemble se veut un canal pour passer des messages qui vont sensibiliser et contribuer à la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le festival était à l'arrêt depuis 5 ans à cause de l'insécurité. Cette année, le festival revient comme une édition de la Renaissance. Le festival veut utiliser les expressions culturelles du pays au service de la cohésion sociale et de la lutte contre l'extrémisme violent. Essentielle thématique de la présente 5e édition. Brema Barry est le coordinateur du Festival international Poulaku.
Nous avons une culture qui doit unir, de faire même du dynamisme culturel burkinabé. Nous sommes un, liés par le sang, liés par les mariages interethniques. Donc nous devons avancer ensemble. Donc nous sommes vraiment comblés pour ce festival-là qui a réuni tout le monde, et même au plan international.
Tous les participants sont convaincus que la culture peut contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Amadou Ndiko, leader Peul.
C'est un appel que je fais à tout Burkinabé. Et chacun où il soit, qu'il puisse apporter sa contribution afin que nous puissions ensemble travailler pour soutenir cette équipe, afin qu'on soit libéré, qu'on puisse répartir dans nos contrées, dans nos 45 provinces que nous avons à tout moment.
Les autorités du pays ne peuvent que saluer de pareilles initiatives. Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Culture.
La culture Poulard, le Poulaku, véhicule des valeurs culturelles de solidarité, de fraternité, des valeurs de respect mutuel, des valeurs de tolérance. Et je pense que c'est l'occasion, à travers cette édition de la relance-là, à travers les différents panels, de pouvoir donc échanger, approfondir la réflexion pour bâtir véritablement le Burkina de demain. La cohésion durable que nous souhaitons sur un fondement solide, le socle de la culture. Et nous en avons la conviction au regard de la qualité des panélistes qui ont été choisis.
Le Festival international Poulaku a refermé ses portes dimanche soir Les festivaliers se penchent sur la prochaine édition en 2024. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nous devons vivre ensemble, les enfants de mes pays.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Nigeria a organisé une conférence internationale sur la sécurité alimentaire qui a réuni les représentants de quelques pays africains à Abuja pour parler de la sécurité alimentaire. En juillet dernier, le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence pour faire face à l'inflation qui menace la sécurité alimentaire du pays le plus peuplé d'Afrique. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La sécurité alimentaire reste un défi majeur au Nigeria, où des millions de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition. Les rencontres des experts se multiplient pour réfléchir autour de la question. La deuxième conférence de ce genre en deux mois s'est tenue ce week-end à Abuja. Nzigani Paul, représentant de l'Agence internationale des héros de l'alimentation.
Nous voulons avoir la sécurité alimentaire en Afrique. Nous voulons parler de la sécurité alimentaire. Comment nos aliments destinés à la consommation propre, pour une Afrique durable, pour une Afrique plus saine. Nous voulons garantir un processus propre, de la graine à la consommation.
Pour résoudre ce problème, il faut des stratégies globales qui s'attaquent aux causes profondes. De nombreux agriculteurs, en particulier dans le nord du Nigeria, ont dû abandonner leurs terres à cause des bandes criminelles. Mafi Kouyomi Ayode Ofren, participant.
Il y a de nombreux défis. Nous avons les bandits, nous avons les mauvaises routes, et vous savez, le manque d'équipement pour nos agriculteurs et les engrais, ce sont les choses que nous allons débattre aujourd'hui. J'ai rédigé un article fouillé parce que je suis l'un des orateurs. J'ai un document très détaillé pour faire comprendre le problème aux gens. Il ne s'agit pas juste de se rassembler et de parler. Nous connaissons tous les problèmes et nous avons même la solution. Mais le problème, c'est le manque de volonté politique et la volonté pour trouver des situations.
Certaines ONG agricoles comme Megwe Gotofam ou Retournant à l'agriculture est un programme visant à sensibiliser les Nigériens à la nécessité de retourner à la terre et soutenir des projets de start-up de transformation, ce qui permettra de réduire l'insécurité alimentaire et la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché local. Obona Martins, fondateur de Quebec Foods.
Nous pensons que les meilleures raffineries qui devraient être construites en ce moment devraient être les raffineries alimentaires, les infrastructures alimentaires. C'est donc un sujet sur lequel je pense qu'une organisation comme celle-ci, un événement comme celui-ci a beaucoup à offrir et nous sommes parfaitement préparés.
En juillet dernier, le président nigérien Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire. Parmi les initiatives prises, il est prévu d'utiliser l'argent économisé grâce à la récente suppression de la subvention sur les carburants pour fournir des engrais et des céréales aux agriculteurs. Bola Tinubu prévoit aussi d'assurer la protection des agriculteurs souvent victimes d'enlèvements. Kabir Ibrahim, président de l'Association nationale des agriculteurs du Nigeria, AFAN.
The most important threat factor.
Le facteur qui menace le plus la productivité est l'insécurité. Donc si le président fait de la sécurité alimentaire une question de sécurité nationale, cela signifie qu'il est prêt à s'attaquer au problème de l'insécurité qui nous empêche d'aller dans nos champs et de produire de manière optimale.
La persistance des conflits, le changement climatique, l'inflation et la hausse des prix des produits alimentaires sont les principaux moteurs de cette tendance alarmante affectant l'accès à la nourriture dans les États de Borno, Adamawa et Yobe au nord-est. Pour ce qui concerne les États du nord-ouest et du centre, ce sont les enlèvements et le banditisme qui y menacent les activités agricoles. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président américain Joe Biden est confronté à la révolte de certains membres du Parti démocrate en raison de son soutien indéfectible à Israël, alors que Tel Aviv étend ses opérations terrestres à Gaza. Les précisions de la correspondante en chef de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, le récit est d'Eric Manirakiza.
Alors que des frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, y compris l'attaque sur le camp de réfugiés d'Al-Shati, une lettre ouverte adressée au président Joe Biden par le groupe de défense du Conseil national démocratique musulman exige qu'il négocie un cessez-le-feu d'ici 17 heures mardi, sous peine de voir des millions de musulmans américains retirer leur soutien à sa réélection l'année prochaine. C'est ce qu'exprime Bassim El-Kara du Conseil national démocratique musulman.
Nous savons pertinemment que notre communauté fera la différence dans les États clés. Je pense que les dirigeants du Parti démocrate y prêtent attention, qu'ils ont peur de ce qui se passe et qu'ils envoient des messages à la Maison-Blanche pour lui dire que cela va nuire à nos chances en 2024.
Plus d'un million d'électeurs musulmans ont voté lors des élections de 2020, un nombre suffisant pour faire basculer la course à la présidentielle dans certains États clés. Les musulmans et les arabes américains votent traditionnellement pour des candidats démocrates, mais un changement est peut-être en train de se produire. Un nouveau sondage réalisé par l'Institut arabo-américain a montré que le soutien à Biden avait chuté parmi les électeurs arabo-américains, passant de 59% lors de l'élection de 2020 à 17% avant celle de 2024. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, prend cette question au sérieux.
Nous allons continuer à nous engager, à dialoguer avec la communauté musulmane, la communauté américaine arabe et les dirigeants américains palestiniens pour écouter leurs préoccupations.
En revanche, les Juifs américains apprécient profondément le soutien de Biden à Israël. Suivez Hallie Seufer du Conseil démocratique juif d'Amérique.
Israël est une question importante, demeure une question très importante pour les électeurs juifs. C'est une question qui suscite un attachement émotionnel très fort entre les Américains juifs et leur soutien à Israël.
Environ 7 millions de juifs vivent aux États-Unis, soit le même nombre qu'en Israël. Ils représentent 3% de l'électorat américain. Joe Biden est également très apprécié en Israël. Il a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à mener la guerre dans le respect du droit humanitaire international afin de protéger les civils. Jonathan Reynolds de l'université Bar-Ilan analyse l'approche du président Biden.
Ce qu'il dit à Israël, c'est de m'aider à vous aider. Si vous faites le maximum d'efforts pour combattre de la bonne manière, selon les lois de la guerre, cela facilite ma capacité à vous soutenir et obtenir un soutien pour vous au sein de la communauté internationale, à la maison en Amérique et au sein du Parti démocrate.
Les sondages montraient que plus de républicains que de démocrates approuvent la décision de Joe Biden d'envoyer des armes à Israël. Suivez Norman Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les républicains, que ce soit Trump ou les républicains au Congrès, pour prendre le contre-pied de Biden en termes de soutien à Israël.
Entre-temps, il y a une pression croissante en faveur d'un cessez-le-feu, notamment de la part de manifestants anti-guerre lors de l'audition de mardi au Congrès. Les représentants de l'administration ont plaidé en faveur de pauses humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide aux civils, mais ils affirment qu'un cessez-le-feu à ce stade ne profiterait qu'au Hamas.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et surtout merci à Michel Joseph pour la mise en onde avec l'assistance de Kelvin Fowler qui était à la console. Nanit Talani était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique.